France Culture.
Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Buster Keaton, 1895-1966. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui lutte seul contre les éléments déchaînés. Celui qui tombe des arbres, qui dévale les montagnes poursuivi par une avalanche de pierres, se retrouve suspendu dans le vide ou se fait passer dessus par un train. Mais c'est aussi l'histoire de celui qui se relève toujours indemne et se recoiffe gravement avant de tout recommencer. Enfant, sur les photos, on le reconnaît déjà. Figure triste dans un habit trop grand, le poids du monde sur ses épaules. Au fur et à mesure des années, on le retrouve, les cheveux noirs gominés, le regard sombre, le teint laiteux, la paupière lourde et le front haut. On s'amuse sans succès à chercher une image qui ferait mentir le surnom de l'homme qui ne souriait jamais. Mais on bute sur son air résigné, le petit épi et le canotier sur le côté. Sur une des dernières photos, les rides sillonnent le visage impassible. Une épaisse moustache grise répond aux larges sourcils et ses rares cheveux dressés lui font comme les deux cornes d'un diablotin qui nous aurait bien eus. C'est à l'époque de son duo mythique avec Chaplin dans Les Feux de la Rampe. Un duo qui scelle leur rivalité amicale, une relation racontée dans le documentaire de l'émission Duel diffusé ce 4 février à 22h15 sur La 5. Mais tout de suite, place à Buster Keaton, le pionnier de l'extrême, un documentaire de Françoise Esteb réalisé par Ghislaine David.
Une fois de plus, nous nous retrouvons à l'aérodrome d'Orly où ce soir nous attendons, ainsi qu'une foule de journalistes, un grand comique américain, Buster Keaton, celui que l'on a surnommé l'homme qui ne rit jamais. Vous l'avez tous vu au moins une fois dans les productions cinématographiques américaines, visage long comme taillé au couteau, yeux énormes et fixes, lèvres éternellement closes et ne s'entrouvant que pour prononcer des mots inaudibles, si j'ose m'exprimer ainsi. Voici en quelques secondes la silhouette familière de celui qui nous a fait si souvent rire, tout en restant de son côté aussi triste que l'on peut l'être dans un film burlesque. Nous l'attendons aujourd'hui à Orly avec quelques inquiétudes, car en effet, on ne sait jamais les gags qu'il peut réserver aux journalistes présents. Keaton a en effet souvent fait la blague aux radioreporteurs américains de se diriger avec empressement vers leur micro, puis au lieu de parler, de prendre ce micro d'une main, de la sticker avec la manche de son veston et de le mettre tout simplement dans la poche. Avouez que si chose pareille se produisait ici, ce serait tout simplement l'arrêt total et brusque de notre émission. Et voici maintenant le Constellation TWA qui vient d'atterrir, qui prend la piste, un magnifique avion d'ailleurs, qui arrive à peu près à une cinquantaine de mètres de nous, vous allez pouvoir entendre les moteurs.
Buster Keaton, 1895-1966, le pionnier de l'extrême.
Joseph Keaton avait été âgé d'un an et demi. Dans la légende, il a plutôt 6 mois. Et il fait une chute absolument spectaculaire dans un escalier. Il dévale tout l'escalier, la tête la première. Et il arrive en bas, indemne. Il ne pleure pas. Il n'a rien. Et l'homme qui le réceptionne au bas des marches, c'est Harry Houdini, qui s'exclame « What a buster ». Et ce terme, ça signifie « chute spectaculaire » dans le langage du spectacle. Et il sera désormais Buster Keaton.
Et Buster Keaton est en effet ici. Il est bien arrivé, il est vêtu d'un petit complet vert à rayures blanches. Et surtout, il ne rit pas. C'est la première chose qui frappe lorsqu'on le voit. Je voudrais que quelqu'un me serve d'interprète, M. Marwani par exemple. Voulez-vous demander à Buster Keaton si c'est la première fois qu'il vient en France?
Le gentleman asks you if it's the first time you're coming in Paris. In France.
Oh no, I've been here many times.
J'ai été là plus souvent que ça.
Pouvez-vous lui demander, s'il vous plaît, ce qu'il compte présenter à Paris comme numéro?
Oh, I am going to appear at the Medrano Circus
for
the next 4 weeks.
Au cirque Medrano, dans quelques semaines. Voilà, et maintenant nous allons un petit peu nous éloigner, car ici il y a énormément de monde. Buster Keaton est maintenant à la proie des photographes.
Lorsque Keaton est passé à Medrano,
Pierre Etex.
Tous les artistes étaient là tous les soirs pour le regarder travailler, parce que lorsqu'il entrait dans la piste, au lieu d'arriver comme on arrive de plein pied en franchissant la barrière, il était tout en haut dans les gradins de Medrano, tout en haut, et il loupait la première marche et il descendait dans une cascade fantastique. Il descendait tout l'escalier pour arriver jusque sur le rebord de piste et placer son menton sur le rebord de piste. Il m'a dit, aucun des artistes qui étaient là parmi nous, les acrobates et les clowns, ne se serait risqué à faire cette cascade-là. Et quand bien même il s'y serait risqué, jamais il n'aurait eu la drôlerie et l'élégance qu'il avait pour la faire.
Non, il a un corps de fait extraordinaire, il a des capacités physiques exceptionnelles.
Jean-Philippe Tessé.
Il court très vite, il saute très haut, il est plus fort que tout le monde. Ce qui est très beau, c'est qu'il arrive aussi bien à la fois à être quelqu'un de explosif, extrêmement athlétique, ou alors très raide quand il doit jouer un aristocrate par exemple. Et quand les deux se rencontrent, il y a quelque chose de très troublant parce qu'on voit ces deux corps en un seul corps. Par exemple, dans le Croisière Navigator, sa manière de courir est merveilleuse parce qu'à la fois, c'est un petit bonhomme aristocratique qui n'est jamais sorti de chez lui, avec sa canne à la main, et qui court de plus en plus vite, mais de début de manière très très raide et un peu ridicule. Et puis finalement l'énergie s'emmagasine en lui. Puis tout à coup, il se met vraiment à courir comme un dératé, explosif, vif comme un colibri.
Keaton est toujours confronté à aller un peu plus loin que l'endroit où il aimerait bien s'installer.
Emmanuel Dreux.
Il y a un élan, c'est la situation qui va trop vite et il faut sans cesse aller plus loin. Ou alors, il se fixe un but, il trouve les moyens pour atteindre ce but, mais en fait, il en fait un peu trop, ce qui fait qu'il va toujours un peu plus loin et qu'il est obligé de poursuivre sa route. Il est confronté toujours à plus grand que lui. Des catastrophes invraisemblables, des ouragans, des inondations, des immeubles qui s'effondrent. Et chaque fois, il faut qu'il se hisse à la hauteur de la situation, c'est-à-dire qu'il se tienne debout, qu'il survive en fait dans une situation. C'est une survie nécessaire.
Mais qu'est-ce qu'il fuit? Quels sont les adversaires de Keaton?
Je dirais que c'est le monde entier.
Buster Keaton est sur scène à 3 ans. Il fait du musical, il fait de la scène avec ses parents, et des parents qui sont assez durs, surtout le père, extrêmement violent, qui le prennent sur scène, qui le jettent sur les spectateurs. Donc c'est un type qui a appris très vite avec son corps à être sur scène. Il a appris les arts du cirque, il a appris les arts du musical.
Vous estimez, Olivier Mongin, que Keaton a eu une formation diabolique, dites-vous. Le terme est tout de même très fort.
Oui, diabolique lui-même en parle comme ça parce que c'est une formation extrêmement dure. Il prend des coups. Son père est quelqu'un de très violent, d'alcoolique. C'est de là aussi que vient un peu une autre légende qui est l'homme qui ne rit jamais, frigo, le masque de cire, tête de buis, c'est-à-dire quelqu'un dont le visage ne bouge pas. Il avait peur des coups qu'il prenait. Et tout le comique de Keaton ne peut pas se comprendre si on ne voit pas que ce visage qui ne bouge pas, est un visage qui craint déjà le danger qui menace. Et tous ces grands films vont être des films qui commencent toujours par une catastrophe.
Parce que le numéro qu'il faisait avec ses parents et qui est devenu un numéro rodé pour lui vers l'âge de 5 ans.
Florence Sevaux.
Parce qu'il a commencé à apparaître sur scène avant. Mais le numéro vraiment mis au point avec son père et qui a rendu les 3 Keaton célèbres, c'était effectivement un numéro extrêmement brutal, puisqu'il tenait le rôle d'une chose, d'un accessoire, et que son père le lançait dans toutes les directions, d'un bout de la scène à l'autre, dans le décor, comme un projectile humain, enfin, à tel point que son père a décidé de lui accrocher une poignée de valise dans le dos pour pouvoir le lancer plus facilement. Et toujours, le spectacle se terminait, le petit Buster atterrissait dans la fosse d'orchestre, en général dans la grosse caisse. Et il est même arrivé un soir que le père de Buster se serve de lui pour assommer un spectateur qui s'était moqué de sa femme, qui était sur scène, qui était saxophoniste et qui participait au spectacle. Et Buster n'a rien eu. Par contre, le spectateur et son voisin ont été pas mal amochés. 2 côtes fêlées, je crois, une fracture de mâchoire. Mais est-ce que l'enfant le ressentait comme une violence? Ça, c'est difficile à savoir. Je sais que c'est choquant de dire ça. Mais il y a des témoignages de personnes qui ont été comme lui, des enfants acrobates, et qui l'ont connu à cette époque, et qui disent qu'il aimait ça. Parce que c'était une sorte de chahut géant. Il s'est presque jamais blessé. Une fois, il a été assommé. Son père a oublié qu'il y avait un mur de briques derrière le décor et il l'a lancé pensant que c'était juste du carton ou du papier peint et il y avait de la brique. C'est absolument miraculeux qu'il ait été si peu blessé. C'était vraiment très tôt un acrobate exceptionnel qui savait se réceptionner dans n'importe quelle situation, n'importe quelle position. Et il devait se mettre dans un état particulier qui fait que sur le moment, il ne ressentait pas ou peu la douleur. Et je pense que très tôt, il a aimé ce chahut violent et gigantesque avec son père, devant des témoins qui étaient sidérés et qui riaient. Et plus eux le faisaient sérieusement, plus les spectateurs riaient.
Et on pourrait dire que tout son comique est un comique qui joue avec la violence. C'est parce que j'ai reçu des coups que, c'est une manière, je suis projeté ailleurs. Le comique, au fond, il est là pour pacifier la violence. Et Keaton, c'est quelqu'un dont le corps va apprendre, non pas à ruser pour éviter les coups, même si c'est important, mais aussi à calmer le jeu.
I had learned at an early age that I happened to be the type of comedian that couldn't laugh at anything he was doing. I also learned that the more serious I took everything, and how serious life was in general, the better laughs I got.
J'ai appris très tôt que j'étais le genre de comédien qui ne pouvait pas rire de ce qu'il faisait, et j'ai aussi compris que plus je prenais les choses au sérieux, et même la vie en général, meilleurs étaient les rires que j'obtenais.
Lorsque Keaton a pris son essor de façon indépendante vers l'âge de 17-18 ans, il a quitté ses parents et c'était une sorte de...
Jean Doucher.
...de catastrophe financière pour les parents. Il y a eu d'ailleurs une brouille avec le père de Keaton, et brouille qui s'est quand même résorbée beaucoup plus tard. Et Keaton lui a donné des rôles plus tard, des petits rôles dans ses propres films.
Il arrive en 1917, c'est-à-dire un peu après la première vague. On pourrait dire que le cinéma burlesque américain commence à partir de 1911-1912, surtout au studio de Sennett, de Max Sennett, la Keystone, où a démarré Chaplin. Chaplin démarre en 14. Ensuite, on a Fatty Arbuckle, toujours dans le même studio. À partir de 1915, on fait essentiellement du court-métrage. Il est rompu déjà à toutes les cascades. Il connaît très très bien le musical parce que la troupe qu'il formait avec ses parents a tourné énormément. Et en fait, quand il arrive au cinéma, il est un petit peu en rupture de contrat au musical parce que la famille s'est un peu délitée. Son père est alcoolique.
Il a quitté sa famille.
Voilà. Il connaît le métier, mais il a pas de numéro en solitaire, et il croise par hasard Fatty Arbuckle qui a besoin de main d'œuvre pour la nouvelle série qu'il commence en dehors du studio de Sennett. Il a rompu avec Sennett pour un nouveau studio, donc il se retrouve très vite dans l'équipe de Fatty Arbuckle.
Et, qui était un acteur,
alors la rondeur, oui. Un acteur extraordinaire qui a joué quelques films en duo avec Charlot, avec Chaplin. Et il est d'emblée, il fait preuve de débrouillardise, d'initiative. Au début, il a des apparitions modestes et à la fin, il est en véritable duo avec lui. Fatty l'a dit, ensuite, c'est quelqu'un qui avait énormément d'idées, qui est devenu très vite indispensable dans l'équipe, qui travaille énormément la question du gag, qui renouvelle les idées de Fatty Arbuckle.
Si vous prenez l'œuvre de Keaton ou même de Chaplin, il y a un niveau de sophistication qui n'est pas le même que dans les films avec Fatty Arbuckle. Fatty Arbuckle, ça reste quand même assez simple. Et Fatty Arbuckle, même si c'était une sorte de gros bibindum, de gros patapouf tout rond, un gros enfant gonflé comme un ballon à l'hélium, très très agile, il court vite, il a toujours des pantalons qui accentuent sa forme ronde et en même temps qui donnent l'impression qu'il a deux petites pattes sous une grosse boule, et il va très vite, et il est quand même très très agile. Il y a une scène dans la collaboration Keaton-Arbuckle, c'est dans le garage infernal, donc il travaille dans un garage, où il y a une sorte de grosse plaque ronde qui sert en fait à poser les voitures dessus, à tourner. Et cette plaque s'emballe et Keaton va se retrouver dessus et donc il va courir comme sur un tapis roulant qui va trop vite. Et avec l'image à 18 secondes propre au cinéma muet, on a vraiment l'impression qu'il court à une vitesse inhumaine, mais vraiment inhumaine. Donc il reprend l'énergie de la course, mais il en fait d'emblée quelque chose de limite, en fait, vraiment. On est à la limite de ce que peut faire un être humain. Il court plus vite que la vitesse elle-même. Il y a quelque chose d'excessif. Et puis, il amène un raffinement des gags, plus célèbre étant celui de la façade qui tombe sur lui, qui est un gag qu'on retrouve dans un film avec Fatty Arbuckle, mais que Keaton ensuite va réemployer dans d'autres films qu'il fera seul, comme une manière de dire « ce gag-là, il est à moi ». Et qui a tout de suite fait entrer le burlesque dans un âge différent, qui n'est pas l'âge de la tarte à la crème, qui n'est pas l'âge juste de la chute, mais où chaque chute devient un événement extraordinaire.
Il arrive à un moment où le cinéma comique est déjà un peu mis en place. Bon, il y a déjà un format, c'est le court-métrage de 20 minutes. On a déjà des vedettes autour desquelles on construit les films, qui ont tous des silhouettes particulières. Bon, Fatty, c'est l'homme rond. Charlot, naturellement, on connaît la silhouette.
Keaton n'a pas une silhouette
particulière. Alors, Keaton n'a pas une silhouette, mais il a un costume. Il est l'ouvrier modeste, souvent salopette. Il est l'homme à tout faire. Dans une épicerie, par exemple, il va être le livreur. Dans un hôpital, il va être le brancardier. Et il amène sa fantaisie comme ça. Il sert souvent de bouc émissaire. D'emblée, il fait preuve de débrouillardise, d'initiative. Initiative qui est quelquefois un peu empêchée comme ça par le personnage principal. Et puis, il y a une gravité chez lui. Il est tellement concentré dans le maintien de sa vie. Sa vie est sans cesse menacée tout de même. Concentré sur sa propre survie en déployant comme ça des trésors d'énergie absolument incroyables, que souvent il ne se rend pas compte de la situation.
C'est dans le premier film qu'il tourne avec Fatty Arbuckle. Fatty Arbuckle qui était un admirateur du spectacle des trois Keaton. Et il embauche Buster. Et au début, ça se passe de façon un peu informelle. Voilà, Buster est un client qui entre dans une boutique et il commence à jongler avec des balais. Et tout de suite, il a ce sens du geste. Tout de suite, c'est beau. C'est drôle, c'est élégant. Et il y a un gag avec... de la mélasse. Donc Keaton rentre dans ce magasin et achète de la mélasse. Arbuckle lui verse dans son chapeau. Donc évidemment, ça colle à la tête. Et puis, en fait, Keaton se retrouve englué les pieds dans la mélasse, donc les pieds collés au sol. Et il finit par se libérer. Il attrape une de ses jambes fortement et il la jette sur le comptoir, et il attrape sa deuxième jambe et il la jette aussi sur le comptoir. Et donc, évidemment, il tombe les reins par terre. Et ce qui est incroyable, c'est que vers l'âge de 50 ans ou un peu plus, il refait ce numéro de la même façon pour la télévision.
Durant toute cette période, il apprend la mise en scène. On voit très bien que tous les dispositifs techniques lui permettent de filmer des trains comme personne ne l'a fait, lui permettent de faire des films comme La Maison électrique, où tout se détraque à tout moment, des films comme La Maison démontable, la fenêtre par laquelle son corps va pouvoir passer et être sauvé. Bon. Donc on a une espèce de génie qui est le génie du corps comique, mais qui est aussi le génie d'un metteur en scène, qui est jour et nuit obsédé pendant 10 ans des mises en scène qu'il fait.
Dans Le Caméraman, il est devenu reporter. Bon, il ne sait pas utiliser une caméra au début du film. Il montre d'ailleurs à quel point il ne sait pas l'utiliser. Et puis, au cours du film, comme dans tous les films de Keaton, il en est passé par l'apprentissage et par la maîtrise totale de l'outil. Et il se retrouve à devoir filmer comme reporter une bataille rangée dans le quartier de Chinatown. Il se retrouve sur place. Et pour donner un peu plus de poids, si je puis dire, à son reportage, il met en scène. C'est-à-dire que, par exemple, deux personnages qui sont en train de se battre, ils rapprochent la caméra pour obtenir le gros plan, et puis quand les deux personnages sont à court d'armes ou de munitions, il leur fournit les armes pour que la bataille puisse continuer, pour obtenir le meilleur effet. Et puis à un moment, ils grimpent sur un échafaudage pour pouvoir filmer la scène en plongée, donc avoir une vue d'ensemble de la scène, et l'échafaudage s'effondre, et on imagine, parce qu'on n'aura jamais le rendu de ce reportage, on imagine dans l'effondrement de cet échafaudage que la caméra descend progressivement sur le sol comme le ferait une grue de cinéma.
Un travelling.
Un travelling.
Carrière de cinéaste autonome, c'est 8-9 ans. C'est 1920, c'est One Week, jusqu'à, parfois on dit souvent que c'est le caméraman, mais moi je rajouterais Spite Marriage, qui est le film qui fait juste après le caméraman, qui est encore vraiment un film de Keaton. Donc c'est 8 ou 9 ans, c'est rien. Et dès qu'il fait son premier film, c'est pas un film intermédiaire, c'est pas un film d'apprentissage, c'est d'emblée un chef-d'œuvre. Moi, ce qui me touche beaucoup dans One Week, je trouve que c'est aussi le rapport aux femmes. C'est très émouvant dans One Week, parce que quand la maison commence à partir, à tourner sur elle-même et à exploser, à imploser dans tous les sens, comme une machine comme une cocotte minute finalement qui commence à exploser, il a ce geste vraiment sublime de prendre sa fiancée et de s'asseoir avec elle, bras dessus, dans une position très moderne, j'ai envie de dire, parce que les comportements amoureux, quand on les voit dans le cinéma muet, parfois ça nous paraît très lointain, mais chez lui il y a une vraie modernité dans ses rapports amoureux, dans ses rapports corporels, physiques avec les femmes, et ils s'enlacent tous les deux et ils regardent ce désastre. On est tous les deux, on se protège et on regarde le monde qui explose.
C'est un œil qu'on ne croise jamais. Il y a pas de regard caméra chez lui. Le Charlot, dans ses pérégrinations, finit toujours par accrocher l'œil de la caméra et donc du spectateur pour lui dire « Vous avez bien vu, je vous ai bien eu ». Alors que chez Keaton, il n'y a jamais cette facilité, si on peut parler de facilité, parce que ce clin d'œil permanent de Charlot au spectateur, c'est aussi ce qui fait son génie. Il nous emmène avec lui. Keaton nous emmène avec lui malgré lui.
Journée où tout jeune comme ça, 3 ans je crois ou un peu moins, il se repose dans sa chambre et il va à la fenêtre et une tornade passe et l'emporte sur plusieurs mètres dans la rue comme un fétu de paille. Alors c'est possible que ce soit vrai, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a donné une scène absolument magnifique à la fin de Steamboat Bill Jr., puisqu'il y a cette scène d'ouragan vraiment très spectaculaire et très belle, dans laquelle à la fois les maisons s'envolent, les toits s'envolent, les maisons se déplacent, et Buster Keaton est comme un petit fétu de paille, incroyablement résistant, mais ballotté au gré du vent.
Par exemple, en plein ouragan, dans Steamboat Bill Jr., il est quand même confronté au vent qui l'emporte, à des immeubles qui s'effondrent sur lui, à une maison qui s'est envolée et qui vient se poser à l'endroit où il s'est réfugié. Surpris, il sort de cette maison, toujours dans le même plan, face à nous, et cette maison s'effondre juste au moment où il est sorti. Et puis, au fil de cette poursuite contre le vent, contre les éléments, il se retrouve à se réfugier dans ce qui reste d'un théâtre et à se retrouver confronté à du décor de théâtre, à de la toile peinte par exemple. Comme il est dans l'élan de la fuite, se jette sur cette toile peinte et puis de fil en aiguille, comme ça, il se retrouve à être confronté à des accessoires de magicien, donc à disparaître littéralement. Il se retrouve confronté à une marionnette qui s'anime toute seule parce que le décor bouge, donc à être plus effrayé par cette marionnette que par l'ouragan. Keaton ajoute naturellement des éléments du musical, des éléments de la magie, y compris même des éléments du premier cinéma comique, celui de Méliès. Keaton bâtit un court-métrage entier là-dessus, en se démultipliant. Il devient l'homme orchestre, il est tout le public. Il est aussi tous les techniciens qui actionnent la machine théâtrale derrière. L'homme orchestre, où il occupe tout l'espace.
La première partie du film Steamboat Bill Jr. est assez glaçante. Ce sont les retrouvailles d'un père et d'un fils. Et après des années d'absence, père est totalement déçu par son fils.
Oui, le père est effondré. Et donc il n'a pas vu son fils depuis qu'il était bébé. Son fils a maintenant 18 ans ou un peu plus, puisqu'il revient de l'université. Et ce sont les retrouvailles qui doivent avoir lieu sur un quai de gare. Et dans son télégramme, le fils a écrit au père qu'il le reconnaîtrait aisément parce qu'il porterait un œillet blanc à la boutonnière. Mais ce jour-là, à cause de la fête des mères, tous les hommes sur le quai portent un œillet blanc. Et surtout, le personnage de Buster Keaton, William Canfield Jr., est descendu du mauvais côté du train. Donc au début, le père regarde partout. Alors lui, il pense qu'il va retrouver un gaillard, un type beaucoup plus grand que lui, costaud, avec des épaules. Et il le cherche partout, il ne le trouve pas. Il finit même par demander à un groupe de garçons « Est-ce que l'un de vous cherche un père ?» Et puis le spectateur découvre, quand le train démarre, un gringalet habillé comme un petit étudiant snob, avec un pantalon très large, une horrible veste rayée, un béret, une petite moustache. Et c'est vraiment, c'est un gringalet. Et voilà, il est descendu du mauvais côté, et lui se met aussi à la recherche de son père, en montrant à tout le monde son œillet. Et à un moment, le père et le fils se croisent sans vraiment se voir. Le père ne peut pas imaginer que cette créature ridicule puisse être son fils. Donc il le regarde à peine, et puis là il s'aperçoit que la valise que ce garçon vient de poser au sol, l'étiquette, c'est son propre nom. Et là, le ciel lui tombe sur la tête. Il est totalement effondré. Ensuite, pour couronner le tout, son fils, donc, qui ne trouve pas son père, a fait le tour d'un petit bâtiment. Il s'est laissé aller, il s'est appuyé contre un landau, il a réveillé le bébé. Et pour calmer le bébé qui pleure, il sort son ukulélé et il se met à gambader, à danser, en jouant du ukulélé et en chantant pour calmer le bébé. Et de là où il est, le père ne voit pas le landau et le bébé. Tout ce qu'il voit, c'est un type qui gesticule et qui a l'air d'un idiot, et voire d'un débile profond. Et ensuite, le père se résigne à lui adresser la parole et à emmener ce garçon chez lui. Il a du mal à lui serrer la main. En fait, il y a cette espèce de bagarre entre le père et le fils tout au long du film, qui va assez loin parce que le père renvoie le fils. Il lui laisse une lettre et de l'argent et il lui dit de repartir. C'est pas la peine.
Come on, you rounders, and gather your beer. Story I'm going to tell you about a brave engineer. Casey Jones was the gentleman's name, and on a 6'8" wheeler boy, he won his fame.
Buster Keaton à la guitare.
The station with a big heavy train. Kept on going till he struck the main. Switchman knew by the engine's moan that the man at the throttle was Casey Jones. Casey was going at a terrible pace when 444 stared him right in the face. Turned at the fireman and said, boy, you better jump, cause two locomotives are going to... Casey said just before he died, there's two more roads I would like to ride. Fireman said, what can they be? It's the Southern Pacific and the Santa Fe. Miss Casey got the wire that Casey was dead. All the children cried so hard they wouldn't go to their bed. Mammy says, children, stop your crying, cause you got another papa on the Salt Lake line. Casey Jones, you got another papa. Casey Jones, he's on the Salt Lake line. Casey Jones, got another papa on the Salt Lake line.
Salt Lake Land.
Keaton a un sens du gag qui est extrêmement pragmatique.
Emmanuel Dereux.
Il est pris dans une situation, il a besoin de quelque chose, un accessoire qui n'est pas là pour se sortir de cette situation, il va construire cet accessoire. Dans Steamboat Bill Jr., pour rattraper une maison à la dérive à partir d'un steamboat, d'un bateau à vapeur, il construit un système de poulies et de cordages, et pour ce faire, il descend trois ponts, premier pont, deuxième pont, troisième pont du bateau pour aller attacher son poulie, et puis il remonte de l'autre côté à la même vitesse quasiment. C'est là où ça devient absolument extraordinaire. Il n'y a pas de trucage, et la caméra accompagne juste ce mouvement pour que la capacité physique du personnage soit totalement magnifiée par l'angle de prise de vue.
C'est un inventeur, donc il cesse d'inventer des machines. One Week, c'est ça, il va construire une maison complètement aberrante, sans le faire exprès, sans
Jean
le vouloir.
Jean-Philippe Tessé.
Une maison normale. Mais malgré lui, par la malveillance d'un ennemi, il va se retrouver à faire encore une fois une maison d'avant-garde, parce qu'il y a quelque chose d'assez troublant chez Keaton, qui, sans le faire exprès, fait toujours les choses d'avant-garde, des films d'avant-garde en caméraman, d'architecture d'avant-garde dans One Week. Et on voit bien comment très vite il s'approprie les machines et il rentre par la fenêtre. Les fameuses scènes dans le Croisé Navigator avec les mécanismes pour manger, la scène avec les poulies où il transforme sa chambre en une salle de séjour et puis tout disparaît, tout réapparaît. Il y a une analogie entre sa manière de fabriquer des gags qui sont très très mécaniques et très précises et qui reposent sur un savoir-faire d'ingénieur et lui-même son personnage qui très vite invente des machines mais qui lui échappe ou qui dérape ou dont il fait voilà, un usage inattendu ou minoritaire. D'un accord ou d'une harmonie entre ce qu'il est et ce qui l'entoure, dont l'image parfaite serait l'image du mécano de la générale quand il est assis sur les bielles et que les bielles l'entraînent. Mais même si c'est muet, on entend le battement de son cœur, on sent qu'il y a un accord possible entre lui et le monde, entre lui et ce qui l'entoure, entre lui et les objets. Tout ce qui traverse son cœur à ce moment-là, tout ce qui traverse son personnage, ça peut faire vibrer à l'unisson les objets, et c'est presque une zone dangereuse. À la fois, son corps est une machine toujours en perpétuel mouvement, et en même temps, il est entouré de machines où il se fabrique des machines lui-même. Et il utilise le cinéma lui-même comme une machine.
C'est ce qui plaisait beaucoup aux dadaïstes.
Parce qu'il y avait une manière aussi de faire feu de tout bois, avec tout ce qui l'entourait, et de tout casser, de tout reconstruire autrement. Si les peintres comme Léger ou Picabia sont intéressés à ces corps-là, c'est aussi qu'ils avaient ce côté démontable et remontable. Ça marche très bien pour Keaton. On a l'impression que le réel, on peut le froisser et le déplier. Un côté cubiste, et puis aussi avec l'idée que l'espace est toujours plein de ressources inattendues.
Dans Go West, il s'appelle Friendless, sans amis, et il a pour ami une vache.
Il a pour ami une vache qui, elle aussi, est totalement exclue du reste du troupeau. Ce sont les deux parias. Lui, il arrive pour travailler dans une ferme, un ranch. Dès qu'il arrive à table, en fait, les autres ont fini de manger, tout le monde se lève. Enfin, c'est très, très drôle. Il n'est jamais à sa place. Alors, il ne sait rien faire. Il est totalement incompétent. Il y a quand même, je crois, la fille du fermier qui essaye de l'aider et qui a le béguin pour lui. Mais son alter ego, c'est vraiment cette vache qui est elle aussi exclue. Dès qu'elle rentre dans le pré, les autres vaches la fuient. Il y a un moment assez extraordinaire où il est dans une foule avec sa vache à contresens. Ça aussi, c'est très typique de Keaton. Il est dans un sens et tout le monde va dans l'autre.
In a minute we found something we liked. We says that's a fine start. He says now what's the finish? Well, when we found the finish, how to round that out? We never worked on the middle. We always figured the middle would take care of itself.
À la minute où on avait trouvé une idée qui nous plaisait, on se disait, tiens, voilà un bon début. Et alors, on se demandait, bon, mais comment sera la fin? Et une fois qu'on avait trouvé la fin, la façon de boucler la boucle, on ne travaillait jamais le milieu. On s'est toujours dit que le milieu arriverait tout seul.
C'est souvent un personnage qui fait corps avec une machine, par exemple. Qui fait corps, y compris même avec les événements. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gag gratuit chez lui. On a l'impression qu'à chaque péripétie, il est totalement engagé.
Et en même temps, il est décalé.
Et il est toujours un peu décalé.
Ce qui est déplacé chez Keaton, c'est le monde réel.
Jean Douchet.
Et ce qui devient magnifique, c'est qu'il oblige le monde réel à venir se placer dans son propre monde.
Il rêve très très souvent, Keaton. C'est pour ça que les surréalistes français l'ont adoré. La part du rêve, par exemple, c'est Frigo Esquimau, tout d'un coup, vous voyez un paysage de neige, vous voyez une station de métro, vous demandez ce qui se passe. C'est Buster Keaton qui sort du métro, mais il se retrouve au pôle Nord. Puis il s'appelle Frigo à ce moment-là. Frigo, on comprend pourquoi. Et puis tout le film, on se laisse prendre. Et puis à la fin du film, on découvre le brave Keaton qui s'est endormi, je ne sais plus là si c'est dans la station de métro ou dans une salle de cinéma. C'est très souvent dans une salle de cinéma. Et en fait, ce n'est qu'un long rêve. Mais ce n'est pas un rêve qui vous emmène totalement ailleurs pour oublier ce qui se passe. C'est toujours un rêve qui vous ramène ici. Et d'ailleurs, qu'un imaginaire totalement cinématographique, on a plusieurs films où le cinéma est le personnage central, le caméraman, Sherlock Junior, où on a un Keaton dans la salle de cinéma, quand il n'est pas opérateur, caméraman, qui regarde l'écran. La plupart du temps, et on va retrouver ça chez Woody Allen plusieurs fois, il va passer derrière l'écran, de capter la réalité à travers la possibilité d'imaginer. Donc c'est un très grand imaginatif, un imaginatif pour revenir au monde et le transformer.
Louis Buñuel, avant d'être cinéaste, a fait un peu de critique et il a parlé du film Collège. Il parle du film Collège en disant que le film est beau comme une salle de bain d'une vitalité d'hispano, la voiture. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est une expression qu'on a ensuite appliquée au personnage de Keaton. Et beau comme une salle de bain, c'est dire tout l'aspect fonctionnel du comic. Il n'y a pas de gag gratuit, il n'y a pas d'idée gratuite. C'est-à-dire que tout a une fonction. Et puis la vitalité d'Hispano, ça renvoie naturellement à cette mécanique du geste qui est la sienne. On a souvent dit que son cinéma, que sa gestuelle était très mécanique, en sous-entendant d'ailleurs qu'il y avait assez peu d'humanité au bout du compte chez le personnage, alors que non, justement, dans son obstination à vaincre la situation dans laquelle il est pris, c'est là où il fait preuve d'une très grande humanité, en devenant presque un surhomme.
Le visage de Keaton, on le voit très bien, c'est le visage de quelqu'un qui a compris qu'il fallait qu'il s'affronte à une menace. Il se replie sur lui-même, il se durcit, on voit cette espèce de visage qui est complètement désarticulé du reste du corps, et c'est ce qui explique qu'à dire que dès que le visage va se décrisper, tout le corps va partir. C'est très différent chez Chaplin, où le corps fait toujours un ensemble. Chez Keaton, on a la tête comme une espèce de concentré mental qui était prêt là à faire en sorte que le corps foute le camp, comme s'il se démembrait.
Il prend des risques,
Florence, c'est
tout le temps. Il peut même mettre sa vie en danger. En fait, sa règle d'or, quand il est en train de tourner, même s'il est en train de faire quelque chose de dangereux, l'opérateur a interdiction absolue de couper. Et un jour, par exemple, sur le tournage des lois de l'hospitalité, Buster Keaton manque de se noyer dans une rivière parce qu'il est attaché par une, il est retenu par une corde, il dévale des rapides. Et la corde cède. Et en fait, quand on voit le film, on voit le moment où la corde cède parce qu'on voit sa silhouette dans l'eau, on voit que tout à coup, ça s'accélère. Et l'opérateur ne doit pas couper et il aurait très bien pu être assommé sur un rocher et ne pas s'en sortir. Et donc, il y avait toutes ces acrobaties, ces cascades qu'il faisait lui-même. Et parfois aussi, il ne mesurait pas certains risques. Par exemple, je crois que c'est aussi sur les lois de l'hospitalité, à un moment il doit retenir sa fiancée, il plonge en se retenant à une branche dans les flots d'une cascade, et en fait il a avalé des litres d'eau.
il aurait pu se noyer.
Il y a un autre moment très très fort comme ça où on sent que c'est évidemment une seule prise, c'est dans les lois de l'hospitalité, le gag où il va faire une cascade complètement invraisemblable pour aller chercher sa belle qui est en train de tomber d'une chute d'eau, et il s'accroche avec une ficelle, une corde autour du ventre, et il se jette, et on voit bien qu'il y a quand même une violence extrême, on voit vraiment que le corps est presque disloqué. Exemple aussi de Hard Luck où il a sauté à côté du trou, c'est des choses qui se font une fois par définition. Et il y a quand même là, chez lui, la conscience de l'exploit physique qui suppose qu'il faut que tout le monde soit prêt, et on le fait, quoi, et on se jette. Et si ça marche pas, le bonhomme peut être cassé aussi. Donc il y a le fait même de faire autant de cascades et d'exploits et de choses très dangereuses physiquement fait qu'il est obligé de compter sur la première prise.
Dans un autre film, il est sur le toit d'un train et il y a une citerne d'eau au bord de la voie. Il déclenche l'ouverture de la citerne et il n'avait pas mesuré la puissance de ces centaines de litres d'eau qui s'abattaient sur lui et ça l'a projeté le coup contre les rails et il s'est fait une fracture.
Et l'eau coule à un moment et le cloue sur le sol et il a les cervicales brisées. Il s'enfuit jusqu'à la ligne d'horizon avec cette brisure qui devait le faire souffrir abominablement. Et il ne manifeste rien de désagréable, au contraire.
Et il découvrira seulement des années plus tard en faisant une radio qui s'était fracturé les cervicales.
Il était devant vous comme ça, c'était très curieux d'ailleurs, et tout d'un coup, sans rime ni raison, sur place, il faisait un saut périlleux en arrière, vous le retrouviez dans la même situation, mais il avait fait un tour sur lui-même.
Turn them over anytime you're ready.
Okay. Stand by. Okay, roll.
As I go over the sideline, he should raise.
He should raise up, yeah, right.
L'imaginaire américain était aussi fondé, tout le 19e siècle, était fondé par l'Ouest, l'horizon, donc une vraie horizontalité. On allait comme ça vers l'horizon, vers l'Ouest. Donc tout était horizontal, c'était les grands déserts, c'était l'Ouest inconnu, c'était le désert du Mexique. Tout cet imaginaire-là, il va basculer vers un imaginaire beaucoup plus vertical, qui est celui des villes. Donc le cinéma burlesque, plus qu'un autre, au moins autant que l'avant-garde, et en même temps que l'avant-garde russe ou allemande, par exemple, le cinéma burlesque va enregistrer ce changement d'imaginaire. Il y a énormément de burlesques, Laurel et Hardy, Harold Lloyd notamment, qui vont, en ville, mettre en scène le vertige des grands immeubles, l'homme des foules, la naissance des loisirs. Et Buster, lui, à l'inverse, il est encore attiré par le... Bon, évidemment, il a fait un film qui s'appelle Go West, mais il est encore attiré par une sorte d'ouest sauvage, un imaginaire beaucoup plus broussailleux, beaucoup plus horizontal, qui est celui des grands espaces, et celui de la nature surtout, et de la nature mais vu comme cosmos.
C'est l'individu démocratique américain du début du siècle.
Olivier Monge.
De ce point de vue-là, il nous dit quelque chose de la démocratie naissante qui est très très fort. On n'est plus dans le carnavalesque, on n'est plus dans le changement de rôle où il y a le fou du roi et le roi. Ce n'est jamais un fou du roi, mais il nous dit aussi que ce monde est un monde un peu violent. Il y a les machines, il y a le fait que même le couple c'est compliqué, la belle famille c'est compliqué, parce qu'il nous parle de tout ça. C'est un monde où, pour devenir quelqu'un, il faut agir. Il faut agir, il faut bouger, il faut montrer ses capacités. Dans toute cette action, il y a l'idée, pour ça que les maisons, les lieux sont très importants chez Keaton, il y a à la fois des espaces mobiles de catastrophe ou pas de catastrophe, mais il y a l'idée qu'il faut s'inscrire quelque part.
Il y a une très grande mélancolie dans les films de Keaton. Parce qu'il y a une tristesse. Il y a un côté où on ne sait pas exactement d'où elle vient. Il y a un sentiment de solitude permanent. Il est toujours dans le rôle d'un personnage marginal, d'une certaine manière coupé des autres. Souvent, les autres lui sont hostiles ou le monde lui est hostile. Il est incompris et aussi quelque chose dans sa nature profonde le marginalise tout le temps. Je trouve aussi qu'il y a un côté étrange chez lui qui participe à cette tristesse.
c'est le fait de n'être plus ni un enfant ni tout à fait un adulte. Parce que le statut de grande personne lui semble toujours refusé.
Et en 1928, c'est ce contrat calamiteux avec la Metro-Goldwyn-Mayer qui va priver Keaton de toute sa liberté artistique, en fait.
Il a fait cette énorme erreur de signer ce contrat avec la MGM. Le studio va lui imposer des choses. En fait, on lui impose des gagmen aussi, qu'il décide à sa place des gags. On lui dit les gags qu'il doit faire, donc les gags sont mauvais, sont pas drôles.
Il peut plus improviser.
Et on lui adjoint aussi un acolyte. On lui adjoint des comiques qui sont plutôt ennuyeux, pas drôles et très bavards. Et ce bavardage-là ne sied pas du tout aux comiques de Keaton, bien au contraire. Et on sent, et c'est assez émouvant, mais alors peut-être qu'on projette des choses, mais on sent aussi un peu un ennui de sa part. Parce que déjà, il est jamais tout seul vraiment à l'écran. Il doit composer avec d'autres acteurs, avec des vedettes qui ont un texte à dire, etc. Donc ce bavardage-là le tue. Et cette absence d'autonomie le tue complètement. Il n'est pas une vedette, il est un acteur employé par un studio qui lui demande de faire ceci et cela. Et en même temps, il a quand même fait deux chefs-d'œuvre, enfin, Les Caméramans, où il est encore, c'est vraiment un de ses plus beaux films, sinon le plus beau film de Keaton. Et après, un autre film que moi j'aime beaucoup, qu'on oublie toujours, qui s'appelle Spite Marriage, qui s'appelle le figurant en français. Il y a dans le film une très longue bagarre, un peu comme dans Battling Butler, très longue lutte, où il se fait battre, il se fait vraiment frapper, mais comme on frappe un vieux chien, quoi. À l'issue de laquelle il sort vainqueur en récupérant, on se passe sur un bateau, donc il récupère la casquette du capitaine, et en même temps on voit qu'il est profondément blessé, et quelque part c'est la dernière image qu'on a de Keaton avant qu'il ne sombre dans toutes ces années d'errance à faire des films totalement indignes de son talent.
Venait d'apprendre cette nouvelle, c'est-à-dire que Joseph Kent n'allait plus le produire et que ce serait désormais la Metro-Goldwyn-Mayer. Mais Joseph Kent, il était comme un père pour lui, il a sûrement été un meilleur père que son vrai père. C'est l'homme qui à la fois est venu le voir tout de suite à son retour de la guerre, a aidé financièrement ses parents pendant que Keaton était en France. Bon, il s'est pas battu hein, pendant la guerre. C'est l'homme qui lui a donné de l'argent aussi à son retour et c'est l'homme qui a rendu tout possible, qui a racheté pour lui les studios de Chaplin, qui lui a donné une entière liberté et qui lui a fait confiance. Donc ça a dû être absolument terrible pour lui. Il venait d'apprendre cette nouvelle le jour où il tournait la scène de la façade. Donc cette façade pesait 500 kilos. Elle était retenue par deux câbles qu'il fallait couper rigoureusement en même temps parce que si elle tombait de travers, bah elle le blessait ou le tuait. Et lui, il n'avait que quelques centimètres de chaque côté, entre lui et l'encadrement de la fenêtre. Donc en fait, ils ont mis la façade au sol, il s'est mis à l'emplacement, ils l'ont relevé, il ne fallait plus qu'il bouge. Et le réalisateur a quitté le plateau tellement il était terrifié, il ne voulait pas voir ça. C'est très difficile de ne pas se dire qu'à ce moment-là, il s'en fichait complètement de se faire écraser par cette façade. Il était tellement abasourdi et désespéré qu'il y a quelque chose de suicidaire dans le tournage de cette scène. Une des choses qu'il va vraiment très mal vivre, c'est de ne plus avoir le droit, un peu plus âgé, de faire ses cascades lui-même. Pour lui, ça n'a aucun sens, parce que pour lui, un cascadeur n'est pas drôle. C'est pas un acteur.
Beaucoup de gens ont dit que Keaton n'a pas été capable de rentrer dans l'âge du cinéma parlant. Je pense que c'est pas une bonne hypothèse. Peut-être que Keaton, s'il avait disposé, comme on a eu la chance Chaplin pendant un moment, de l'autonomie de ses productions filmiques, peut-être qu'il aurait pu être aussi un grand metteur en scène du parlant.
Il signe son contrat en 1928 avec la MGM. Et ensuite, en 1930, je crois, il fait Le Professeur, qui doit être un des tout premiers films qu'il fait sous son nouveau régime. Et là, ça commence à être beaucoup, beaucoup moins intéressant. C'est un film très faible. Et il va en faire beaucoup comme ça dans les années 30. Jusqu'à finalement disparaître des plateaux, parce que il devient aussi un peu infréquentable aux yeux des producteurs, parce qu'il boit, il joue beaucoup, il arrive un peu ivre mort sur les plateaux. Il y a quelques scènes dans des films qui sont pas très intéressants, mais quelques scènes où parfois ça revient, où parfois on voit on lui donne juste un espace, un lieu, un décor, quelques objets, une situation, et il peut être encore génial. On voit que il perd rien du tout de son talent. Par moment, par éclat, on voit encore une lumière dans les yeux, il a encore une lueur. Quand il a un tout petit peu de temps, un tout petit espace, un axe de caméra très simple, et il peut faire quelque chose. Et ça, c'est bouleversant quand on attrape comme ça dans un film, ce qui reste, où on voit encore un regard sous la carapace de ce qui lui a été imposé. Chaque burlesque, de toute façon, a une trajectoire assez particulière par rapport à ça. Certains ont pris leur pli comme Laurel et Hardy, certains ont raté le coche comme Harold Lloyd, comme Langdon. On voit bien que quelque part, c'est pas le problème du parlant. Lui, c'est qu'il avait des rêves fous, c'était un artiste fou, quelqu'un de tellement extravagant qu'il pouvait pas se fondre dans le moule qu'on lui imposait.
Je crois que c'est un solide buveur assez vite, et qu'ensuite, dès que ça va mal, il se saoule toutes les nuits, il joue aux cartes. Mais c'est l'époque où en fait il a été viré, il a plus de maison puisqu'il l'a laissé à sa femme. Tout ce qu'il a, c'est une caravane qu'il garait, je crois, sur le parking de la MGL, mais comme au bout d'un moment il le fout dehors, il a même plus d'endroit où se garer. Mais c'est vrai que son mariage, ça tourne mal très vite. Le divorce se passe très mal. Il n'a pas le droit de revoir ses enfants. Surtout, il y a une chose terrible, c'est que sa femme a changé le nom de son fils sans le lui dire. Non, il y a vraiment une série d'humiliations très, très graves, très profondes. Et il y a quelque chose de récurrent dans sa vie, c'est qu'en fait, il est dépossédé de ce qui compte le plus pour lui. Il est dépossédé de ses garçons, il est dépossédé de son nom, enfin de la permanence de son nom. Et dans sa vie professionnelle, il est dépossédé de son travail, de sa liberté de faire des films.
Il y a une légende qui se constitue autour de Keaton, puisque on va le retrouver dans plusieurs films. D'abord dans un film de Billy Wilder où il joue un vieux comédien, etc. Alors tout le monde l'a enfermé dans ce personnage de vieux comédien un peu malheureux. Et puis il joue aussi dans Les Feux de la Rampe de Chaplin, où par rapport à Chaplin, avec lequel il est en scène, il va jouer aussi le rôle d'un vieux comédien. Alors on en a un peu rajouté là-dessus, surtout à une époque où on ne connaissait pas les courts-métrages. Il faut quand même bien savoir que les courts-métrages, ils avaient été perdus, ils ont disparu, on a progressivement connu les grands films. Mais Keaton n'est pas quelqu'un, à la différence de Chaplin, dont on maîtrisait la production cinématographique il y a encore 10-15 ans. C'est très récent. Keaton, faut apprendre à le regarder aujourd'hui. Et puis après, il y a un dernier Keaton, qui est le Keaton qui joue dans un très court film où on le voit de dos, de Samuel Beckett, qui s'appelle Zéro. Ben, on avait l'impression qu'il était tiré vers une espèce de comique de l'absurde, ce qui est d'ailleurs totalement faux. Donc on a une image d'un Keaton vieillissant, un peu malheureux, jouant les vieux routiers éventuellement sur scène. On l'a même vu dans des cirques en France faire des apparitions comme Jerry Lewis après. Mais moi, je suis tout à fait contre cette vision de Keaton. Keaton, c'est une énergie qui n'a jamais disparu.
Au début des années 60, il a tourné un film publicitaire, en fait, pour l'Institut National du Film Canadien, qui devait rendre compte de l'ouverture d'une ligne de chemin de fer. Et on pense à Keaton quand on pense chemin de fer, naturellement. Et en fait, sur ce film qui est pas extraordinaire, il y a un making-of qui a été fait, où on voit Keaton, déjà redevenu presque le saltimbanque qu'il est resté. Il est sur le tournage, il vit dans une caravane, comme un enfant de la balle. Et au détour d'une séquence comme ça, où il est en train de discuter, comme il s'agit d'un film sur les locomotives, on voit un train passer, comme ça, qui vient juste se regarder derrière. Et Keaton a un geste absolument extraordinaire, qui est un geste quasi improvisé. Au moment où la locomotive s'engage comme ça, arrive dans le champ, Keaton saisit une des poignées de cette locomotive et l'arrête. Son geste nous fait croire qu'il arrête, et en fait on sent un sens là du timing absolument extraordinaire, et aussi du cadre. parce que cette locomotive serait allée plus loin que le cadre, il n'aurait pas fait ce geste.
Paris 1962, Pierre Etex.
Lorsqu'il est arrivé devant la Cinémathèque, il n'avait pas encore, on n'avait ressorti aucun de ses films. Il venait donc faire cadeau de ses copies de toute son œuvre à la Cinémathèque française. Il était très inquiet de savoir comment on l'accueillerait. Et lorsqu'il est arrivé rue de Courcelles en voiture, Raymond Roer m'a dit qu'il était très inquiet, qu'il ne voulait pas descendre de voiture. Il a dit avant d'entrer, « Oh mais on m'a oublié, plus personne ne me connaît, je vais encore subir une humiliation, etc. » Et il en souffrait beaucoup, il ne voulait pas venir. Et puis il y avait là 300 personnes qui étaient rassemblées rue de Courcelles dans un tout petit espace. Et quand il est entré, on lui a fait une ovation extraordinaire. Et là, il a été très 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 ému. Et le soir, la surprise a été d'autant plus grande que rue d'Ulm, il y avait, puisque la Cinémathèque était rue d'Ulm à cette époque-là, il y avait une queue qui allait jusqu'au Panthéon et les gens étaient refoulés. Ça, pour moi, c'est un souvenir inoubliable. Pendant 15 jours où on a projeté tous ces films, chaque soir, ça a été le même événement. Et lorsqu'il est arrivé à la Cinémathèque, donc rue d'Ulm le soir, pour la projection de ses films, il est entré, je me rappelle, j'étais sur un bord, il est passé tout près de moi avec un imperméable, avec le col relevé, il était livide, il avait le visage très contracté, et tout le monde était debout, l'applaudissant. J'ai vu qu'il pleurait, et ça c'est un moment phénoménal. Il a été reconnu comme ça, après 30 ans d'oubli, en un jour.
Et il meurt en 1966.
Voilà, il meurt, et le tournage, on dit que le tournage de film l'a beaucoup beaucoup épuisé, parce qu'il n'était pas en grande forme à ce moment-là. Mais s'il fallait refaire une prise, il la faisait sans rien dire. Donc il y avait quand même quelque chose de sacrificiel aussi jusqu'au boutiste. Mais c'est très troublant, je trouve. Parce que sur la figuration d'un corps humain, Keaton, c'est une expérience limite. Il fabrique des images limites. Je pense à un film où il se fait passer pour un singe, parce qu'il a malencontreusement libéré le singe de sa cage. Donc il y a un problème, le spectacle va commencer, il n'y a plus de singe. Donc il se déguise lui-même en singe, et il fait le singe. Et bien sûr que c'est vraiment une image extrêmement troublante. Il y a quelque chose chez lui, je trouve, qui atteint, mais comme certains burlesques l'ont fait aussi, qui atteint les limites, où ça peut devenir insupportable, ça peut devenir trop extrême, ça peut vraiment nous faire sortir du genre humain. Je pense au ralenti, par exemple, dans ses films. Il y a quelques scènes avec des ralentis qui sont extraordinaires, dans Les Trois Âges et dans Collège. Les Trois Âges, où à un moment il est jeté d'une falaise par une femme préhistorique et il l'embrasse comme ça en tombant. C'est des images magnifiques, c'est des ralentis sublimes pour l'époque. Et il y a quelque chose, pareillement, il y a un frisson qui passe parce qu'on a un sentiment d'éternité quelque part. Et que c'est pas, finalement, pas si accessible que ça au commun des mortels. Il y a quelque chose qui fait trembler. Et c'est ce que je trouve à la fois bouleversant, parce qu'en même temps, il y a toujours une simplicité, une bonhomie chez lui. Son personnage a plutôt bon cœur. Et en même temps, on sent qu'il peut nous faire atteindre des zones qui sont proches du fantastique.
Don't forget tonight, a special show. When comedy was king, with Buster Keaton, Stan Laurel, Oliver Hardy, and many other 20, roaring 20 stars, two shows at 7 and 9 p.m. So come on in to see the stars of the famous roaring 20s.
The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts who move the show at dawn. The music, the spotlights, the people, the towns, your baggage with the labels pasted on.
The sawdust and the horses and the smell. The town you've taken from the last hotel. There's no business like show business, like no business I know.
Everything about it is appealing, everything the traffic will allow.
Nowhere could you have a happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are low.
Buster Keaton, le pionnier de l'extrême, une émission de Françoise Esteb, avec Emmanuel Dreux de l'Université de Paris 8, Olivier Mongin, directeur de publication de la revue Esprit, Florence Sévos, romancière, scénariste, Jean-Philippe Tessé, membre du comité de rédaction des Cahiers du cinéma. Les voix de Claude Autant-Lara, Jean Douché, Pierre Etex, Archivina, Amélie Briand-Lejeune. Prise de son, Laurent Macchietti.
Mixage Jean-Louis Deloncle. Réalisation Ghislaine David.
There's no business like show business if you tell me it's so.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon, cette semaine en partenariat avec l'émission Duel sur la 5. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celui qui composait avec les nouvelles technologies, les bruits et le hasard, John Cage. Mais dans un instant, on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains.